Bonjour David Cadouche.
Bonjour.
Bonjour, alors je suis vraiment extrêmement à la fois enchantée, émue de vous rencontrer, honorée de vous rencontrer.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Nous sommes au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, bien évidemment pour un concert ce soir que vous allez donner. Vous êtes en pleine répétition avec l'Orchestre National d'Avignon-Provence. Comment ça va? Comment
ça
vous
va
allez
bien? C'est toujours étrange les jours de concert parce qu'on... On sait qu'il y a ce temps du concert de 30 minutes, je joue un concert de 30 minutes,
ouais.
Qui arrive le soir où on doit être très concentré. Et j'ai l'impression que parfois le corps se met presque en hibernation en attendant ce moment. Il n'ose pas trop se montrer, donc on se sent un peu fatigué. En même temps, on sait qu'on a de l'énergie en réserve. Avec les années d'expérience, j'apprends à faire confiance à mon corps qui me dit « Là, je me sens fatigué, mais tout à l'heure, je serai, j'espère, apte à monter sur scène. »
Alors merci d'autant plus d'avoir accepté cette interview juste après ces répétitions et un peu avant votre concert. Pendant les prochaines heures qui restent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous balader, vous reposer, méditer?
Alors ça c'est... moi, mais c'est très personnel et j'ai l'impression que c'est un peu... C'est dans mon métier, j'ai l'impression que les gens ne font pas ça autour de moi. J'aime bien travailler jusqu'au dernier moment.
D'accord.
J'aime bien parce que... J'aime bien penser que le moment de la scène n'est qu'un moment, en anglais on dit un work in progress.
Oui.
Et même si on doit donner l'impression que c'est notre version ultime quand on le présente aux gens, j'aime bien aussi penser que ça fait partie d'un cheminement, un cheminement de travail. Et le fait de travailler jusqu'au dernier moment me montre généralement que jusqu'au dernier moment, j'arrive à trouver des idées, des chemins différents. Et donc ça m'aide à dédramatiser, en fait, ce qu'est une version ultime.
Et un petit peu avant de monter le concert, alors là, vous lâchez prise quand même ou...
Je lâche... C'est pas vraiment qu'on lâche prise, c'est qu'on se laisse... On se laisse dévorer par son travail.
D'accord.
C'est-à-dire que sur scène, en principe, quand les choses vont bien, le travail prend le dessus. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, certains automatismes prennent le dessus. Et donc... Il s'agit de laisser, de faire confiance à ce travail pour qu'il prenne sur nos peurs, sur les angoisses du moment et se dire tout ira bien. Et c'est ça lâcher prise, c'est en fait faire confiance à son travail.
Vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné, j'ai l'impression. En même temps, c'est un peu normal vu la carrière que vous avez, le travail que vous avez fait, la musicalité que vous donnez, la sensibilité que vous donnez, que vous faites partager aussi au public quand vous jouez.
Je pense que ce métier, on ne peut pas le... le monde de la musique classique, c'est un monde vraiment à part. On a un public qui... ce sont des fidèles, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un très grand renouveau du public. Moi, je fais ce métier depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Je travaille des compositeurs qui sont morts depuis des centaines d'années, parfois. Et pour faire ça, pour travailler, pour dédier sa journée, pour dédier des années entières à cette pratique du répertoire, il faut être passionné. Enfin, il n'y a pas d'autre manière de le présenter. Alors, je suis addict au beau, ça c'est sûr, parce que c'est du beau qu'on voit tous les jours, qu'on travaille tous les jours. Mais c'est effectivement, s'il n'y a pas de passion derrière, on ne peut pas tricher, non.
La passion et la sensibilité aussi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez sensible. Quand vous jouez, vous interprétez beaucoup. J'ai eu ce ressenti quand je vous ai vu jouer.
C'est très gentil. Je pense que... et c'est étrange parce que j'ai eu une période dans ma vie où j'ai essayé de mettre ça un peu plus loin de moi. Peut-être parce que quand on est sur scène, quand on est jeune, on se sent très vulnérable et laisser épouser ce qu'on pense d'une œuvre, c'est-à-dire... l'arc narratif d'une œuvre, c'est-à-dire se mettre comme un acteur sur scène, épouser les questionnements d'un compositeur, et épouser vraiment ce qu'on pense d'une phrase. C'est pas seulement des termes musicologiques, ça peut être quelqu'un qui pleure dans une phrase, ça peut être un questionnement, un doute, ça peut être une prière. Et donc ça, monter sur scène et prendre cette matière-là, qui est une matière émotive, véritablement, j'ai eu pendant une période de ma carrière, un peu peur de le faire parce que j'avais peur de mal le faire. C'est étrange de le dire comme ça. Et maintenant, peut-être avec le bagage culturel que j'ai, parce que j'ai lu beaucoup, je me suis vraiment cultivé sur les compositeurs, j'arrive davantage à parler de jeu quand je joue Mozart, c'est-à-dire de pouvoir dire, c'est moi qui parle, mais je sais d'où je parle, je sais avec quel style je peux parler. Et ça, ça rejoint votre question hein, de manière un peu alambiquée sur l'émotion et si je suis quelqu'un d'émotif sur scène. Oui, je suis quelqu'un d'émotif parce que je pense que à partir du moment où on laisse tout le discours musicologique, la virtuosité, enfin, ce que les gens ils veulent avoir devant eux, c'est un témoignage humain, quelque chose qui leur fait vivre, quelque chose qu'ils vivent eux-mêmes tous les jours. Et je pense que l'expérience d'un Mozart, d'une Fanny Mendelssohn, ou je ne sais pas de qui, mais elle nous apporte quelque chose, mais il faut juste savoir trouver l'émotion vraie. Et ça, c'est mon métier, c'est ma recherche en tous les cas.
Vous racontez leur histoire, en fait, par la musique, quelque part, c'est ça ?
On raconte une histoire. On raconte sûrement l'histoire de ce moment-là, ce qu'on en déduit de ce qui s'est passé à ce moment-là dans leur vie. Et c'est souvent des expériences extrêmement universelles qui parlent de tristesse, de doute, d'angoisse, beaucoup d'angoisse.
C'est la vie, quoi.
C'est la vie.
Voilà. C'est la vie. On a dû vous poser cette question des milliers de fois, mais c'est pas grave parce que moi je vous l'ai jamais posée.
Allez-y. Bien sûr.
Comment vous êtes arrivé au piano ? Bah oui, j'imagine combien de fois on vous l'a posé cette question.
On me la pose souvent, mais j'aime bien y répondre parce que je parle de mes parents. Alors.
D'accord.
Je viens d'une famille qui est ma mère. Elle aime tous les arts et donc. Je suis issu de l'immigration. Pour elle, le piano, c'était quelque chose un facteur d'équilibre social. Mm-hmm. Et je pense que d'avoir un piano, de faire travailler les enfants, de faire venir un professeur de piano, c'était quelque chose de beau, qui avait une valeur d'équilibre. Et je pense qu'elle nous a... Donc j'ai deux sœurs, on a tous fait du piano, on est tous passés par là. Et elle dit que j'avais un son particulier, c'est pour ça qu'elle m'a poussé. Et je ne sais pas si les mères de pianistes, c'est vraiment un concept, je pourrais en parler des heures, parce qu'il y a plein de types de pianistes, de mères de pianistes. La mienne était une maman qui ne savait pas jouer, mais qui a donné beaucoup de son temps à me faire voir différents professeurs, à m'amener dans des masterclass. Et donc c'est comme ça que petit à petit, j'ai pu développer ma carrière.
Oui, quelle carrière ? Comment vous l'avez vécu au fur et à mesure de l'avancée de votre carrière, comment vous l'avez vécu, vous, personnellement, en tant que David ?
J'ai un a priori étrange sur ma carrière parce que je suis confronté à des compositeurs qui... Enfin, je veux dire, ce que je joue ce soir, c'est plus qu'une œuvre d'art, c'est, oui, un chef-d'œuvre. Donc, quand on est interprète, j'ai une vision, pas négative, mais petite de ce qu'on peut accomplir. C'est-à-dire, je ne suis qu'interprète, je fréquente parfois des compositeurs qui arrivent vraiment à donner leur voix d'une époque, et je suis très admiratif. Moi, ma carrière, elle s'est développée vraiment étrangement. J'ai eu un grand début de carrière, ça a très très bien marché. Et puis après, j'ai dû me trouver, comment savoir, comment me définir, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais dire sur scène. Et maintenant, je pense que c'est beaucoup plus clair. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps de savoir, après des débuts de prodige, ou quand on joue très très tôt, à 13 ans, 14 ans, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait ? Quel répertoire on veut défendre ? Quel message on veut faire passer ?
Mais est-ce qu'on en a conscience, ça, à 13 ans, 14 ans ?
Absolument pas, non. Et c'est par la suite qu'il faut répondre à ces questions, parce qu'elles sont... elles arrivent justement à donner du sens à ce que l'on fait.
Et c'est nécessaire dans tous les cas.
C'est nécessaire de savoir, d'avoir un but, de se projeter même, de se voir dans quelques années, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer. Donc il faut se connaître, il faut épouser ses formes à soi. Et ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup de qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'aime écouter, qu'est-ce que je veux défendre. C'est plein de questions auxquelles on doit répondre, mais qui sont passionnantes, parce que elle nous hante toute la... Moi, elle me hante, elle continue de me hanter toute la journée, de savoir se définir, c'est le métier d'une vie.
Mm-hmm. Bien sûr, bien sûr. Et le piano fait partie uniquement de votre vie, ou vous avez d'autres passions ? Vous avez le temps, déjà, est-ce que vous avez le temps ?
J'ai très peu d'autres passions. Je te dire que ma vie tourne vraiment autour du piano. Ouais. Je lis autour de la musique, j'écoute... que de la musique, enfin que de la musique. On est venu me chercher, je regardais une masterclass sur le piano. Parce que ça se nourrit en fait.
Ça s'imbrique.
Ça se nourrit. Plus on regarde, plus on se nourrit, plus on apprend. Et plus on se sent heureux de faire ce qu'on fait parce qu'on nourrit l'animal qui est en soi, l'animal passion, dans mon cas musique, passion créatrice, on le nourrit avec tout ça. Donc c'est difficile d'avoir quelque chose d'autre autour de soi. Oui.
Et quand on vous confie des premières fois d'interprétation d'œuvres, notamment je pense à
Garoutal,
à Garoutal avec l'Orchestre d'Avignon.
Bah là, c'est...
C'est quoi, là? On ressent quoi?
Alors là, il y a deux histoires qui s'entrechoquent, je dirais. On a parlé tout à l'heure de définir sa carrière. Moi, le répertoire des compositrices a été, depuis quelques années, quelque chose qui m'a ému, quelque chose que j'ai voulu défendre en concert. Donc, j'en joue, je dirais, beaucoup. Et là, le fait qu'on me propose cette œuvre qui est somptueuse, d'une compositrice... qui n'a pas été joué en France, jamais, ce concerto, c'était une première. Donc, c'était très émouvant, parce qu'on a parlé aussi, donc ça rejoint un peu toutes les questions que vous m'avez posées. Là, c'est vraiment une musique d'émotion complètement sauvage, presque. Je peux demander à un enfant de 5 ans, qu'est-ce que tu entends là? Il va me dire, ah là, je crois que c'est quelqu'un qui pleure. Là, je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine illusion. Il comprendra. Et c'est une musique limpide à ce niveau-là. Et donc, c'était pour moi monter sur scène et défendre ce répertoire. Je suis sorti du concert. Vraiment, c'était. Ah, j'étais heureux de l'avoir fait. Ouais,
oui. Oui, on l'a ressenti.
Ah, c'est gentil, merci.
Est-ce que, justement, votre interprétation gestuelle ou émotionnelle plutôt est différente en fonction des compositeurs que vous jouez? Faire que vous interprétez, des interprétations.
Absolument.
Pardon.
non, c'était très clair. Mon gestuel sur scène, ma gestuelle sur scène, va être totalement différente en fonction des compositeurs, du style. C'est comme un acteur qui va monter sur scène pour jouer du Molière. Il va se comporter différemment pour jouer, un auteur contemporain. Mm-hmm. Donc... il y a vraiment quelque chose sur lequel on doit s'adapter. L'intensité des émotions, que ce soit dans une musique un peu galante, ça ne sera pas du tout la même que dans la musique de Rachmaninoff. Du Bach, je vais peut-être être beaucoup plus de jouer de manière beaucoup plus épurée. Et encore, ça se défend, parce qu'il y a des danses dans Bach. Donc, la gestique vraiment va s'adapter à ce que je dis.
Oui, et ce que vous voulez raconter aussi.
Absolument.
Oui. En termes d'actualité, de projets, d'enregistrements, de concerts, de festivals, vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez l'intention de faire ces prochains mois.
Alors, j'ai deux duos, magnifiques duos avec Edgar Moreau et Sandrine Pio, avec Edgar Moreau au violoncelle et un autre avec la chanteuse Sandrine Pio. Il y aura deux disques différents qui vont sortir. J'ai un disque solo aussi qui va sortir. Dans un an et demi, que je enregistre en ce moment, c'est pour ça que
D'accord.
ça prend du temps. Et en termes de répertoire, je vais jouer à la Philharmonie 3 soirs de suite en janvier autour d'un projet autour de Schoenberg. Et c'est Bertrand Bonello, le réalisateur, qui fera une mise en scène de la vie de Schoenberg. Donc j'ai hâte que le spectateur puisse voir ça. Donc la Philharmonie de Paris sera transformée
D'accord.
pour l'occasion. Ça, c'est en janvier. Je serai à la Folle Journée de Nantes fin janvier aussi. Et plein d'autres projets, évidemment. C'est difficile de faire son calendrier, mais dans les choses qui m'excitent vraiment profondément,
c'est
de rejouer le concerto de Clara Schumann et d'enregistrer le concerto que vous avez écouté de Lucia Garuta
D'accord.
avec Avignon l'année
D'accord.
prochaine. Qu'il a besoin d'être... grandement défendu ce concerto.
C'est une avant-première, une nouvelle avant-première.
Absolument.
Une exclusivité,
presque. Sûrement, voilà.
vous avez cette humilité, cet humanisme aussi que vous dégagez, pardon, mais c'est ce qu'on ressent. C'est important pour vous, justement, d'être près des gens comme ça.
Alors, c'est en tant que pianiste, qui défend un répertoire voilà, de compositeurs noirs de 100 ans avec un public parfois qu'il faut vraiment ramener dans les salles. Oui, c'est évidemment très très important, que ce soit d'être présent sur les réseaux, de parler aux gens, de présenter ses choix de concerts. On doit expliquer pourquoi on fait ce métier. C'est vrai que c'est étrange. Moi, je le ressens le matin. Parfois, je me réveille, je me dis, je vais travailler du piano aujourd'hui toute la journée. Et parfois, j'ai des moments de pause où je me dis, c'est vraiment un choix de vie étonnant. Mmh. Et ça, évidemment, le spectateur aussi, je pense qu'il doit le penser. Mmh. Et d'en parler, de savoir en parler, de savoir être même blagué à propos de ça, de parler des compositeurs, de les mettre dans des situations contemporaines. C'est ce que j'essaie de faire à travers les réseaux sociaux, évidemment, mais à travers aussi les différents récitals que j'ai construits jusqu'à maintenant. C'est voilà, éclairer différemment ce monde qui est le monde de la musique classique, qui n'est pas un musée, qui fait vivre des compositeurs encore maintenant parce qu'ils ont des choses à dire à propos de notre époque.
Merci beaucoup David Cadouche pour cette rencontre.
Merci à vous.
Merci infiniment.